Le membre du Sacré Collège, contre lequel le veto serait à interposer en cas extrême, est le cardinal Rampolla. Extrait du télégramme du comte Goluchowski, ministre des Affaires étrangères de l'Empire austro-hongrois, au comte Tschesen, ambassadeur austro-hongrois auprès du Saint-Siège, le 21 juillet 1903 à 11h15.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Le 20 juillet 1903, à 4 heures de l'après-midi, le pape Léon XIII meurt. Il avait 93 ans et avait été élu 25 ans auparavant. Dans toutes les chancelleries, dans les heures qui viennent, des télégrammes préviennent de la mort du pontife. Un conclave va donc être organisé. Mais il va y avoir, à l'occasion de ce conclave de 1903, une pratique qui, pour la dernière fois, va être utilisée. C'est la pratique du droit d'exclusive. Le droit d'exclusive était une pratique qui avait débuté à la fin du XVIe siècle, de la part d'ailleurs du très catholique roi d'Espagne, Philippe II. En effet, la très puissante Espagne avait l'intention de peser sur les conclaves en excluant de l'élection tel ou tel cardinal. Et Philippe II était intervenu en 1590 pour signaler qu'il fallait choisir le pontife parmi une liste de 7 cardinaux qu'il indiquait et qu'un des cardinaux électeurs espagnols devait justement indiquer à ses confrères. Or, cette habitude ne reposait sur aucun texte, mais la puissance espagnole s'était pris d'ambition au travers de cette pratique et elle n'a pas été restée seule parce que d'autres monarchies catholiques ont voulu également peser sur les conclaves. La monarchie française, à partir du milieu du XVIIe siècle, a régulièrement voulu intervenir. La première fois, semble-t-il, qu'il y a eu une intervention française, c'est lors du conclave de 1655. Mais, disons-le également, Louis XIV n'a d'ailleurs guère abusé de cette pratique. La troisième puissance catholique qui a pratiqué le droit d'exclusive, c'est le Saint-Empire romain germanique à la fin du XVIIe siècle. Et en fait, en 1903, c'est l'Empire austro-hongrois, qui se veut quelque peu l'héritier du Saint-Empire romain germanique, qui va pratiquer le droit d'exclusive. En effet, il y a un cardinal que le gouvernement austro-hongrois ne souhaite pas voir sur le trône de Saint-Pierre. Ce cardinal, c'est Mariano Rampolla, né en 1843 et qui a fait une carrière au travers de la diplomatie vaticane. En particulier, il a été nonce en Espagne en 1882. Et en 1887, le pape Léon XIII avait fait de Rampolla un cardinal et son secrétaire d'État, c'est-à-dire l'équivalent du Premier ministre et du ministre des Affaires étrangères du Saint-Siège. Or, le cardinal Rampolla, aux yeux des puissances centrales, c'est-à-dire Autriche-Hongrie, mais également l'Allemagne, eh bien, était trop francophile, avait poussé au ralliement des catholiques français en faveur de la République à partir de 1892, puisqu'effectivement, le pontificat de Léon XIII voit des dispositions du Saint-Siège pour encourager les catholiques à finalement se rallier à la République. Et pour tout dire, il apparaissait finalement comme trop libéral, trop francophile, peut-être même trop réformateur. Et donc, il y a eu un débat au sommet du pouvoir austro-hongrois pour savoir s'il fallait faire le droit d'exclusive, s'il fallait pratiquer le droit d'exclusive. L'empereur François-Joseph a longtemps hésité, mais finalement il s'est rallié à l'idée. Mais au demeurant, le droit d'exclusive ne visait peut-être pas d'ailleurs que Rampolla. Par exemple, il y avait un autre cardinal qui était mal vu à Vienne, c'est le cardinal Aliardi, qui avait été nonce à Vienne et qui avait fortement déplu au gouvernement austro-hongrois parce qu'il s'était, à intervalles réguliers, intéressé à la vie politique de l'Empire. Et par exemple, il avait favorisé le parti des chrétiens sociaux, dont l'antisémitisme heurtait le vieux souverain. Et puis également, il avait harangué et encouragé la noblesse hongroise contre le gouvernement libéral de Banfi à propos de ses lois sur la diversité linguistique de l'Empire. Donc, Aliardi aurait sans doute, s'il avait été en position d'être élu, eh bien, mis sous le système du droit d'exclusive. Donc nous voici au moment où le conclave va s'ouvrir. Et effectivement, le 31 juillet 1903, le conclave, qui suit la mort de Léon XIII, s'ouvre dans la chapelle Sixtine, au travers du chant du Veni Creator que les cardinaux chantent pour demander à l'Esprit-Saint de les guider sur le choix du pontife. Reste à savoir qui a été désigné pour être le porte-parole du gouvernement austro-hongrois. Le cardinal qui va porter le droit d'exclusive est le cardinal Puschina, archevêque de Cracovie, et il va être soutenu d'ailleurs par un autre cardinal, le cardinal allemand Kopp, qui est archevêque de Breslau. Le conclave débute, et lors du premier tour, le cardinal qui reçoit le plus de suffrages est Rampolla, avec 24 suffrages sur une soixantaine de cardinaux électeurs. Est-ce qu'il faut intervenir à ce moment-là? Visiblement, Puschina ne le pense pas. On va faire un autre tour de scrutin, et à ce moment-là, le cardinal Rampolla obtient 29 suffrages. Donc, il augmente son quota, et s'il ne se rapproche pas encore de l'élection, il est toujours en tête. Et c'est à cette occasion que le cardinal Puschina décide d'intervenir. Il se lève et, d'après les témoignages, gêné. Alors, pourquoi je dis d'après les témoignages? C'est que l'historien a eu une chance extraordinaire à propos du conclave de 1903. C'est que un des cardinaux lecteurs avait tenu un journal qu'il avait laissé dans ses archives où il racontait par le menu le déroulé du conclave. Or, quand ce cardinal est décédé en 1914, on a retrouvé dans ses archives ce cahier où il y avait y compris le nombre de votes et également les interventions des cardinaux. Et donc, on sait exactement comment s'est déroulé le conclave de 1903. Et visiblement, donc, Puschina a été gêné d'intervenir, même s'il a eu le soutien du cardinal Kopp. Le témoignage, d'ailleurs, dit que la voix du cardinal archevêque de Cracovie portait peu. Il a fallu lui faire répéter une seconde fois, d'autant plus qu'il s'exprimait en latin. Et puis, comme on comprenait mal, certains ont demandé à ce qu'il répète une troisième fois. Et donc, tout aussi gêné, le cardinal Puschina a répété une troisième fois le droit d'exclusive de l'empereur François-Joseph et du gouvernement austro-hongrois contre le cardinal Rampolla. La réaction de Rampolla, d'ailleurs, a été, si on en croit toujours ce témoignage, à la fois digne et évidemment touchée. Il est resté assis un moment. Il a eu un ton, dit-on, cramoisi quelque peu. Et puis, finalement, il s'est levé pour protester contre cette ingérence. Il a été soutenu d'ailleurs par quelques autres cardinaux qui ont trouvé l'habitude détestable. Alors on a procédé à un nouveau tour de scrutin. Nous sommes le 2 août. Et là, il va atteindre 30 voix, c'est-à-dire qu'il augmente, mais de très très peu. Il semble bien que les indications du cardinal archevêque de Cracovie aient provoqué le trouble. Et puis, voyant que on risquait véritablement un blocage du conclave, le cardinal Rampolla a signifié qu'il ne souhaitait pas finalement accéder, malgré la confiance que certains de ses frères lui avaient accordée, à la fonction pontificale. À partir de ce moment-là, c'est vrai que la situation se débloqua quelque peu. Et donc, il y a eu la montée progressive du patriarche de Venise, le cardinal Sarto, qui, au début du conclave, avait eu une dizaine de voix. Au final, le cardinal Sarto a été élu avec 50 voix sur 63 électeurs. Il est devenu le pape Pie X. Mais l'expérience de cette élection a laissé des traces profondes. Aussi, le pape Pie X a décidé, par une constitution apostolique du 20 janvier 1904, d'interdire fermement toute intervention de puissance étrangère à l'Église, comme se donnant le droit de pratiquer le droit d'exclusive. Et à partir de 1903, eh bien, il n'y a plus d'intervention directe de l'Autriche, de l'Espagne ou de la France. Désormais, on peut estimer que dans les conclaves qui se sont succédés, le prochain conclave aura lieu en 1914, eh bien, on arrêtera de voir les puissances catholiques intervenir directement dans l'élection pontificale. On peut même dire que finalement, c'est à partir de cette décision du pape Pie X d'interdire strictement toute intervention extérieure que pleinement les cardinaux du conclave avaient la liberté totale de choix pour la succession au trône de Saint-Pierre. Et il faut bien avouer que c'est bien mieux ainsi.